Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les studios de Mediapart. Je reçois aujourd'hui l'historien français Benjamin Stora, l'un des historiens les plus réputés de l'histoire de l'Algérie, notamment de la guerre, qui a débouché en 1962 sur l'indépendance du pays. Bonjour Benjamin Stora.
Bonjour.
Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
Merci à Mediapart de m'inviter.
Vous êtes notre premier invité d'un nouveau cycle d'entretien consacré au poids, aux douleurs, au silence, au tabou de l'histoire entre la France et l'Algérie, à l'heure où les présidents français et algériens se sont lancés dans un défi mémoriel inédit, réconcilier les mémoires endolories de part et d'autre de la Méditerranée. Vous êtes le premier invité parce que vous avez été choisi par le président français Emmanuel Macron pour conduire cette mission, je cite, « dresser un état des lieux du chemin accompli en France sur la mémoire de la colonisation » et de la guerre d'Algérie. Dans une démarche parallèle, le président algérien Abdelmajid Tebboune a nommé Abdelmajid Chéri pour mener de l'autre côté de la Méditerranée ce travail de vérité. Première question, concrètement, en quoi va consister cette mission? Comment vous allez faire pour crever les abcès de la colonisation et de la guerre d'Algérie?
D'abord, je ne vais pas seul crever, disons, ces abcès mémoriels qui traînent non seulement depuis l'indépendance de 1962, mais y compris bien avant, c'est-à-dire depuis la colonisation en Algérie qui a duré, ne l'oublions pas, près d'un siècle et demi. Donc c'est pas possible de dire qu'on va écrire une histoire définitive, qu'on va régler absolument et définitivement cette question. Non, ce qu'il faut, c'est essayer d'avancer, peut-être le plus modestement possible, mais d'avancer pour essayer de trouver des compromis mémoriels, parce que de part et d'autre de la Méditerranée, cette histoire coloniale extrêmement dure, extrêmement cruelle, continue d'encombrer, disons, les relations, et continue aussi de servir d'instrumentalisation politique de part et d'autre, disons, à des fins de politique intérieure, donc c'est souvent le cas, mais il y a aussi quand même des souffrances de peuple. Il n'y a pas que des instrumentalisations politiques. Il y a aussi des gens de part et d'autre de la Méditerranée qui, 60 ans plus tard, continuent de souffrir de cette question-là, de souffrir d'avoir été abandonnés, d'avoir été trahis, de n'avoir pas été reconnus au niveau de leur souffrance. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui continue encore d'être concerné par cette histoire.
Qu'est-ce qui n'a pas été fait, justement, concrètement?
C'est-à-dire qu'en fait, oui, mon propos, c'est d'avancer vers le fait que des condamnations, des discours du système colonial en France, dans le fond, nous les avons depuis une vingtaine d'années. Ça, c'est incontestable. Je ne pense pas qu'un président de la République, aujourd'hui, s'aviserait de dire que le système colonial était formidable, positif ou autre. On l'a vu, disons, le tollé, le soulèvement que ça a été en Afrique, dans les Antilles, partout, dans tous les pays anciennement colonisés, que d'expliquer cela. C'est pas possible. Je veux dire, aucun chef d'État ne se risquerait à ça. Par contre, il faut passer, effectivement, à mon sens, à une autre étape. C'est-à-dire qu'il y a eu l'étape de la reconnaissance formelle, mais maintenant il faut passer à, disons, un certain nombre de points pratiques par rapport à cette condamnation, par rapport à cette prise de position. Alors, il y a eu l'affaire Audin. Pour moi, c'est très important, parce que là, on n'est pas simplement dans la condamnation abstraite, mais dans le fait de prendre sur des sujets très particuliers la mise en cause de tout un système, en fait, tel que...
Donc peut-être expliquons, effectivement, donc Emmanuel Macron, qui est le premier président français né après l'indépendance de l'Algérie, a commis une série de signaux en direction de cet apaisement des mémoires. Donc il avait effectivement eu des discours.
On se souvient,
pendant la campagne présidentielle, il avait condamné la colonisation comme étant un crime contre l'humanité. Une fois élu, il a reconnu, pour la première fois, la responsabilité de l'État français dans la mort sous la torture du célèbre mathématicien et militant anticolonialiste
dans l'assassinat de
Maurice Audin, assassiné en 1957 à Alger. Et dans le même temps, il reconnaissait le caractère systémique de la torture durant la guerre d'Algérie. Il a également reçu des harkis, ceux qui ont combattu aux côtés de la France et qui ont été abandonnés par les autorités algériennes dans des conditions tragiques. Il a encore remis en juillet les crânes, 24 crânes de combattants algériens décapités pendant l'interminable nuit coloniale au XIXe siècle. Ok, donc on a des gestes concrets, mais vous, comment il faut aller plus loin? On reviendra ensuite sur Emmanuel Macron et sa démarche,
parce qu'elle
m'apparaît ambivalente sur certains points.
Donc, tout à fait.
Mais concrètement, vous, quelles pistes pourriez-vous avancer?
Alors, c'est très difficile pour moi de dire ici à Mediapart toutes les pistes que je vais avancer dans les préconisations. Mais ce que je voudrais dire, c'est que j'ai été très surpris par le fait qu'un grand nombre d'associations ont demandé à me rencontrer une fois connue, disons, cette mission. Ça, j'étais très surpris. mais associations de pieds noirs, de harkis, d'immigrés, d'algériens, des associations culturelles. Là, j'ai découvert aussi le foisonnement, je veux dire, d'initiatives. De gens qui, par exemple, se battaient depuis très longtemps, je vous donne des exemples, hein, se battaient pour la restitution d'un canon, d'un canon qui avait été emmené par l'armée française après la reddition du Dey d'Alger, un canon qui surplombait la baie d'Alger, la restitution des clés d'une ville de Larouat, par exemple. Il y a des associations qui se battent depuis des années pour la restitution de cela. Il y a aussi des associations qui se battent pour la réhabilitation des cimetières, parce que c'est très important, les cimetières. Pour faire son deuil sur la question de la mémoire, il y a des associations, par exemple, de sauvegarde de cimetières comme celui de Saint-Eugène, de Bollorine à Alger. Ça, c'est très intéressant, c'est très important. Je ne savais pas qu'il existait. Des associations aussi appartenant à la communauté juive qui veulent préserver leur mémoire à travers des grands cimetières comme ceux de Tlemcen ou ceux de Constantine. Je pourrais comme ça multiplier les exemples. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'associations mémorielles qui n'ont jamais cessé, en fait, de revendiquer des passerelles mémorielles entre la France et l'Algérie. J'ai été vraiment surpris de ce foisonnement, de ceux qui n'attendent pas tout des États et qui disent, dans le fond, ont un contact direct avec les Algériens, avec des associations algériennes qui, elles aussi, combattent. Alors, bien sûr, il y a le problème des archives aussi, j'en parlerai, parce que les archives... À la fois, on a promis son ouverture, mais il y a eu des restrictions de fermeture avec l'IG 1300 qui oblige à ce qu'on appelle tamponner les documents un par un, qui retardent, disons, l'accès à des documents déclassifiés, y compris secret défense, ce que tous les historiens réclament. Bien entendu, ça s'intervient exactement dans ce processus et les historiens français sont en mobilisation, disons, sur cette affaire-là. Donc, bien sûr, j'en tiens compte. Je vais en faire état parce que c'est tout à fait décisif. Mais en même temps, la question des archives se réduit pas seulement à cette question-là, parce qu'elle touche aussi au problème des visas. Vous savez, sur les histoires de la France et de l'Algérie, on ouvre un tiroir, il y en a un autre qui s'ouvre derrière, etc., etc. C'est une espèce de foisonnement. Et on a, par exemple, effectivement, la question des visas et des séjours en France pour les chercheurs algériens qui veulent aller à Aix-en-Provence. La plupart des grandes archives algériennes ont été déposées à Aix-en-Provence, mais il faudrait peut-être imaginer des résidences d'études pour chercheurs algériens qui viendraient quelques semaines ou quelques mois travailler en France sur l'histoire. Mais ça exige aussi peut-être une réflexion sur le fait que des chercheurs français, eux aussi, peuvent aller en Algérie, peuvent aussi aller réfléchir sur l'histoire intérieure algérienne. C'est depuis 60 ans, il s'en est passé quand même des choses.
Ce qui est aujourd'hui très compliqué.
Ce qui est aujourd'hui très, très compliqué, c'est-à-dire... Voilà, j'ai dirigé beaucoup de thèses dans ma vie, maintenant je suis à la retraite, mais parmi mes doctorants de l'époque, il y en a certains qui faisaient des thèses, mais qui voulaient avoir accès aux archives algériennes, et pas simplement aux archives françaises, et qui ont eu de très très grandes difficultés d'accès à ces archives. Donc il y a par conséquent cette question à la fois classique d'écriture d'histoire, d'archives, de préservation mémorielle, de bataille, mais qui ouvre et qui débouche aussi sur des stratégies de coopération culturelle qui vont sur la question des images, la fabrication en commun d'images, la fabrication en commun de chaînes de télévision.
J'ai lu dans une interview justement que vous pourriez proposer une chaîne franco-algérienne sur le modèle d'Arte.
Pourquoi pas? Alors ça, là aussi, c'est une initiative qui existe déjà. C'est des gens qui se battent pour ça depuis longtemps. Je veux dire, je pense en particulier, par exemple, à Rachid Arab, bon, qui essaye de lancer ce projet, qui est un très gros projet, très difficile à mettre en œuvre, évidemment. Mais ils m'ont pas attendu, hein, dans le cadre de cette mission pour essayer. Mais l'objectif, c'est que dans le cadre de cette mission, on puisse montrer le foisonnement des initiatives et essayer de trouver des cas pratiques. Et puis, il y a le côté, j'allais dire, cruel de cette histoire, c'est-à-dire la question des disparus. Parce que ça, c'est une énorme question.
Il faut en parler.
Donc, pourquoi pas l'élaboration d'un guide des disparus? Pourquoi pas savoir exactement... Alors, là aussi, je signale qu'il y a des sites qui existent. Hein, le site des Milles, par exemple, qui a été mis en place à la suite de la bataille sur Morisoda. Il y a un certain nombre d'historiens et de chercheurs qui ont commencé à établir ça. Il y a aussi les Européens d'Algérie qui ont été enlevés, qui ont disparu, notamment à Oran en juillet 62. Il y a aussi les soldats français qui ont disparu. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, j'ai rencontré des associations d'anciens combattants, de soldats, je veux dire de militaires français, qui voudraient eux aussi, disons, pouvoir retrouver les corps de leurs camarades, etc. Vous voyez, c'est,
et là, et l'un des
il y a
enjeux,
tellement de choses. Il y a
l'un des enjeux de votre mission, à mon sens, c'est aussi que vous parlez dans une interview, je disais, vous évoquiez la communautarisation des mémoires. Et c'est vrai que c'est la grande problématique sur la France et l'Algérie, c'est qu'on a cette communautarisation des mémoires, chacun s'enfermant dans sa mémoire spécifique, alors les harkis, les juifs d'Algérie, les indépendantistes, les immigrés algériens.
Les spécialistes.
L'OAS, exactement. Et donc, comment vous...
Ah, c'est très difficile.
Comment faire?
C'est très difficile.
Est-ce
qu'on peut
apaiser ou est-ce que c'est une mission impossible?
Vous savez, je travaille sur cette histoire, j'ai écrit beaucoup d'ouvrages là-dessus, etc. Et c'est vrai que chacun veut toujours avoir eu raison dans le passé. C'est-à-dire, ne veut pas reconnaître le temps qui a passé. Donc, ils sont enfermés, disons, dans une sorte d'horloge.
Et au fil du temps, les mémoires se sont durcies.
Elles se sont durcies, cloisonnées, et tout le monde veut avoir raison encore aujourd'hui par rapport à ce passé. Alors il y a des caricatures invraisemblables, mais il y a des choses qui sont intéressantes. C'est que, par exemple, si on regarde l'aspect politique de la chose, au sens général, et pas simplement, disons, des groupes porteurs de mémoire, moi je constate par exemple que la droite politique française, sur le plan classiquement de droite, gaulliste, en fait ne défend plus tellement la mémoire du général de Gaulle, qui a été un des acteurs de la décolonisation. Je veux dire qu'elle n'en parle pas. Elle parle du général de Gaulle du 18 juin 40, mais plus celui de 62.
Ah, mais c'est intéressant.
C'est un aspect.
Oui.
Comment
est accueillie cette mission par les différents partis politiques? Ont-ils pris attache avec vous?
L'extrême droite est naturellement extrêmement hostile. Hein, je veux dire, parce que toute forme de rapprochement avec l'Algérie, pour eux, s'apparente à une trahison.
Elle a d'ailleurs critiqué votre nomination, et il faut rappeler que vous êtes régulièrement la cible de l'extrême droite, mais aussi de la droite française.
Et aussi de la droite
qui
classique.
Qui sont aussi un vivier des nostalgiques de l'Algérie française.
Oui, j'ai eu un grand article d'une page entière dans le Figaro, expliquant que j'avais une mémoire hémiplégique. Ce à quoi j'ai répondu que si, parce que je ne parlais pas des Français d'Algérie, ce à quoi j'ai répondu que j'ai écrit quand même deux trois livres sur les Juifs d'Algérie, alors c'est à considérer qu'ils sont pas Français. Donc si on considère que je travaille pas, enfin vous voyez où je veux en venir dans ce genre de problématique, on va pas épiloguer. Donc l'extrême droite, elle, dans le fond, ne reconnaît pas, je veux dire, cette histoire, cette trahison du général de Gaulle, cet abandon. C'est une vieille thématique qu'elle sans arrêt. Elle ne reconnaît pas en fait au fond l'existence du nationalisme algérien. C'est-à-dire la nation algérienne, fondamentalement. C'est ça le cœur du sujet. La droite française, disons qu'elle elle se tait, je veux dire, sur cet aspect-là. Donc elle est sous le feu de l'extrême droite. Et ce qui m'a surpris aussi, il faut le dire clairement, sur cette mission, c'est que la gauche classique, c'est-à-dire, qu'on connaît tous, bien sûr, hein, Parti socialiste, Parti communiste, les Verts, les Insoumis, etc., ne se sont pas manifestés sur cette mission. C'est-à-dire qu'ils n'ont ni approuvé, ni désapprouvé. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, dans le fond, il y a une occasion, qu'est-ce qu'on peut faire pour connaître davantage de vérités cruelles sur cette histoire, sur quel personnage on peut agir pour pouvoir le réhabiliter, par exemple, je ne sais pas. Qu'est-ce que on pourrait envisager comme forme de coopération, je veux dire, avec l'Algérie, qui est un grand pays, quand même, l'Algérie.
Et comment vous l'expliquez? Pourquoi il rate le coche?
Je pense que c'est une affaire qui ne les intéresse pas. Enfin, je le vois comme ça. Je me trompe peut-être. Hein. Vous savez, j'ai pas de théorie achevée sur ces questions-là. Je pense qu'il y a un gros souci de la gauche française avec l'histoire algérienne aussi. J'ai vu récemment un film de fiction qui va sortir prochainement sur les écrans, qui est consacré, c'est un film de fiction, consacré à la vie de Fernand Yvetot, qui va apparaître prochainement, avec Vincent Lacoste dans le rôle de Fernand Yvetot. C'est un très beau film. Et tout le monde sait que l'histoire Yvetot, c'est l'histoire d'un militant qui a été guillotiné en 1957. Qui a été très faiblement défendu, pour ne pas dire plus, et le ministre de la Justice de l'époque était François Mitterrand. Le film va sortir, je pense que ce sera peut-être encore une fois l'occasion, peut-être, de marquer quelle a été l'attitude de la gauche française par rapport à cette année 56-57. C'est une des hypothèses possibles, c'est-à-dire de ne pas peut-être trop soulever le couvercle de la mémoire sur cette histoire algérienne et des responsabilités politiques particulières de chacun sur cette histoire. C'est une hypothèse. Mais plus fondamentalement, parce que j'en ai discuté beaucoup avec pas mal de copains, d'anciens militants avec qui on réfléchit, vous savez comment ça se passe, je leur parlais de ça, évidemment. Et ils me disaient, tu sais, plus fondamentalement, je crois que le Sud, ça les intéresse pas tellement. C'est-à-dire tout ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, ça rentre pas dans le champ de vision politique, hein, au sens, disons, classique du terme. Il y a la France, d'abord, toujours, encore, et puis, bien sûr, l'Europe. Mais, dans le fond, les questions qui touchent à la Méditerranée, à l'immigration, je m'en étais aperçu beaucoup lorsque j'étais président du musée de l'histoire de l'immigration. C'est-à-dire qu'il y avait quand même assez peu d'investissements strictement politiques de la gauche sur cette affaire. La droite était hostile, disons, à ce musée, c'est pas un secret, mais un assez faible investissement sur le plan idéologique et politique, sur les questions touchant à l'immigration, à l'exil, aux sans-papiers, à toutes ces questions-là. Ce sont des questions qui gênent, sur lesquelles on n'a pas beaucoup prise, etc. Et donc l'histoire de l'Algérie, l'histoire des rapports franco-algériens, de cette mémoire, qui pourtant touche encore une fois des millions de personnes, de personnes dans la société française, c'est un cas unique dans l'histoire coloniale, l'histoire de l'Algérie. Il n'y a pas d'équivalent possible.
Et je voudrais justement qu'on avance un petit peu dans notre entretien. C'est que, on le disait, Emmanuel Macron donc, a envoyé une série de signaux considérés par de nombreux observateurs, et y compris par Alger, comme de grands gestes. Mais est-ce qu'on peut être un président crédible quand on dit « moi, je veux réconcilier les mémoires, apaiser les rapports entre la France et l'Algérie » et en même temps être le chef de file d'un gouvernement de pompiers pyromanes qui va chercher dans les bas-fonds de l'histoire française toute une sémantique relevant des temps coloniaux, accusant une partie de la société française descendant de coloniser, d'ensauvagement, de séparatisme.
Je ne sais pas si, bon, on peut réfléchir sur la personnalité d'Emmanuel Macron, sur ses prises de position individuelles par rapport à tel ou tel aspect, mais ce qui m'intéresse plus fondamentalement, c'est que les termes utilisés, les pratiques qu'on connaît en sauvagement, la question du séparatisme et toutes ces questions-là, elles renvoient à une posture ancienne, héritage en fait d'un républicanisme outrancier qui était celui qui valorisait la colonisation comme une sorte d'exemplarité civilisationnelle. C'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans une mentalité historico-politique française, une sorte de matrice culturelle, fabriquant bien sûr des stéréotypes sur avec des illusions que le nationalisme français a pu apporter et être universaliste, je veux dire, dans sa... Et je crois que c'est sur ces questions qu'il faut réfléchir fondamentalement. Parce qu'on en est trop resté en France, à mon avis, hein, je vous dis ce que j'en pense, à des postures politiciennes du moment sur un tel par rapport à un tel qui répond pas à un tel, etc., etc. Bien sûr, on peut critiquer Macron, on peut critiquer la droite, on peut critiquer une fraction de la gauche qui ne prend pas ces questions-là, etc. Mais plus fondamentalement, il y a un travail d'éducation politique qui doit être menée aujourd'hui sur cette utilisation d'un vocabulaire postcolonial, pour employer, disons, des phrases. Et il y a tout un travail, disons, que les partis politiques, en particulier, devraient mener pour ne pas qu'on reste dans ce logiciel. Parce que, dans le fond, on est dans une continuité de logiciel sur ces questions-là. Pour moi, ce n'est pas des nouveautés. Vous savez, ce n'est pas des choses nouvelles.
Non, ce n'est pas des nouveautés,
mais
ça revient.
Utilisées. Mais elles reviennent.
Et ce sont des positions identitaires et qui font du mal, qui fracturent la société.
Et du coup, c'est vrai que le discours d'Emmanuel
Macron apparaît peu crédible. On ne peut pas être sur la scène internationale celui qui veut réconcilier la France et l'Algérie et, dans le même temps, aller
Il faut lever ces contradictions sur le terrain pratique, c'est-à-dire par précisément prendre des initiatives sur ce qu'a été cette guerre coloniale, ce qu'a été les déplacements de population algérienne. Ça, c'est des trucs très pratiques. Par exemple, ce qu'a été la question d'utilisation de l'arme nucléaire et de la décontamination. Ça, ce sont pour moi des choses très pratiques, des choses très concrètes.
Des tabous dont on ne parle pas.
Oui, il y a plein de choses dont on parle, que les Français ne connaissent pas, en fait, fondamentalement.
Vous savez, les Algériens connaissent mieux l'histoire française.
C'est leur histoire. Ils connaissent bien l'histoire française, mais les Français ne connaissent pas l'histoire algérienne. Mais ce qui est frappant aussi, c'est qu'ils ne connaissent pas, par exemple, l'histoire de la conquête de l'Algérie. 1830-1880, ils ne la connaissent
totalement
pas. C'est-à-dire que pour eux, bon, quand il y a eu la restitution des crânes, des 24 crânes, les gens ne savaient pas que les militants, enfin les combattants capturés étaient décapités, par exemple. Ça, c'est des choses extraordinaires. Donc moi, je suis obligé, si vous voulez, de me battre et d'articuler ce combat, disons mémoriel, sur des données pratiques qui visent à remettre en question ou en contradiction avec des stéréotypes, des fantasmes, des préjugés, disons qui ont toujours cours dans la société française. Lorsqu'il y a eu tous les débats sur l'identité française, je ne vais pas revenir sur tous les débats.
Alors j'aimerais revenir ça, parce que le calendrier dans lequel s'inscrivent ce retour identitaire des obsessions que sont l'ensauvagement, le séparatisme, pour ne plus dire le communautarisme, etc., intervient après un réveil international de l'antiracisme, après l'assassinat aux États-Unis de cet Afro-Américain George Floyd, par des policiers blancs, qui a suscité un élan mondial antiraciste et qui a fait ressurgir des débats enflammés autour du postcolonial, des conséquences de la colonisation, de l'esclavage, des récits officiels qui oublient tout un pan de l'histoire réelle. Et aujourd'hui, vous, comment vous avez observé ces faits-là? Parce qu'en France, on a eu des manifestations d'une ampleur inédite, et dans la foulée, on a eu des ministres qui ont pris la lumière pour parler d'ensauvagement de la société française.
Moi, je pense que ces mobilisations, comme des mobilisations d'abord de la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui se mobilise pour se réapproprier son passé, savoir où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, en l'absence, disons, d'éclairage politique. Avant, c'était les éclairages politiques qui permettaient de situer les généalogies. Moi, je suis rentré en politique dans les années 70 à l'extrême-gauche, et par cet engagement, j'ai pu savoir où je me situais, dans quelle partie de la France j'étais, dans quelle partie du monde, et avec qui je pouvais combattre. L'effondrement des partis politiques fait que la jeunesse d'aujourd'hui est obligée de se réapproprier cette généalogie à travers des objets très précis, très particuliers, le féminisme, la question de l'antiracisme, je prends ces deux piliers, et la question des... Je prends ça parce que ça me semble le plus important, et la question des migrants. C'est-à-dire que ces trois aspects de mobilisation de la jeunesse, le féminisme, la question des migrants et l'histoire du racisme colonial, j'emploie ce terme, pour moi c'est plus évident et plus simple, ce sont des manifestations d'installation de toute une fraction de la jeunesse internationale dans une histoire des résistances, d'émancipation, de batailles politiques, de lutte de classe aussi, c'est très important. Et il y a ce réveil généralisé, qui vise pas à segmenter, mais qui vise à comprendre et à essayer de réunifier, mais sur des objets qui sont pour moi les trois principaux étant ceux que je viens d'énoncer. C'est-à-dire que c'est tout à fait important. Il est dommage que les partis politiques qui se réclament de l'émancipation, précisément, aient abandonné, disons, ces grands, j'allais dire, objets d'histoire que je viens de donner. C'est ça le grand problème.
Par exemple, partout dans le monde, on a vu des manifestants se lever contre des statues et des rues à la gloire de figures colonialistes ou esclavagistes. En France, ce fut également le cas. Et on a des figures telles que le maréchal Bugeaud, puisqu'on parle de l'Algérie, qui font débat. Quel est votre point de vue sur ce déboulonnage des statues? Le président Macron a dit « pas question d'effacer une quelconque trace, ni de déboulonner une quelconque statue ».
Vous savez, il y a un mouvement de critique de ce qu'a été l'histoire de la colonisation et l'esclavage. Moi, je ne peux, entre guillemets, que m'en réjouir, parce que dans le fond, tout le sens de mon travail pendant 40 ans, ça a été d'essayer d'écrire une autre histoire que celle de la valorisation du fait colonial. Donc aujourd'hui, où des jeunes générations disent « nous voulons nous réapproprier notre histoire », j'ai écrit un livre entier là-dessus, sur ce qui se passe par exemple aujourd'hui en Algérie, avec le mouvement populaire algérien de l'année 2019, où il y avait, c'était extraordinaire comme manifestation, parce que des manifestations d'histoire, où on se réappropriait des figures historiques qui avaient été mises au secret. Donc moi je trouve, vous savez, pour un historien, c'est extraordinaire, parce que vous combattez, vous écrivez, etc., pendant des années, rien ne se passe, et puis tout d'un coup, dans la société, vous avez des gens qui se réapproprient des figures ou qui veulent détruire des figures qui étaient admises comme pacificatrices ou autres. Donc moi je peux, que voulez-vous que je vous dise? Moi je peux que m'en réjouir, je ne peux pas dire non, etc. Mais en même temps, je suis obligé de constater qu'il y a des mouvements qui freinent ce processus, qui disent non, il faut faire attention, etc., etc. Moi, à cela, je répondrai très simplement qu'il faut plus d'histoire, il faut encadrer l'histoire, il faut inventer des lieux d'histoire en France nouveaux où on puisse parler de la colonisation. On a, dans le fond, inventé un lieu sur l'histoire de l'immigration, pourquoi pas, qui vit difficilement. Mais pourquoi ne pas inventer aussi un lieu qui serait un musée de la France et de l'Algérie, qui soit un musée de l'histoire de la colonisation, qui soit des espaces critiques de réflexion? Il y en avait un qui a fermé la colonie, malheureusement, mais c'est sur ce modèle-là sur lequel moi je réfléchis, c'est-à-dire le fait qu'on puisse s'approprier davantage d'histoire de ses parents, de ses grands-parents, non pas pour, disons, mettre en accusation l'ensemble de l'histoire française, mais pour tout simplement savoir d'où l'on vient. C'est-à-dire de l'histoire, il faut la regarder de tous les côtés. Donc il faut faire un effort considérable et non pas essayer de dire nous allons figer l'histoire. Ça, c'est pas possible de figer les histoires, parce que quand une fraction de la jeunesse se met en mobilisation sur des sujets particuliers, il faut leur répondre. Mais il faut leur donner des réponses pratiques en termes de lieux, en termes d'écoles, en termes de programmes, en termes de personnages. Et à ce propos, je dirais que la France, c'est pas simplement le maréchal Bugeaud et Gallieni.
Enfin, je sais pas. Faire...
Voilà, il y en a beaucoup. Les généraux, quoi. Bon, l'armée. La France, c'est aussi l'anticolonialisme. La France, c'est aussi, Pierre Vidal-Naquet, c'est aussi Gisèle Halimi, c'est aussi Jean-Paul Sartre, c'est aussi Frantz Fanon. La France, c'est tout ça. C'est aussi ça qu'il faut donner dans l'histoire de France. On peut pas... Et ça, je...
Oui, mais quand on voit qu'on a du mal à nommer une rue Frantz Fanon à Bordeaux...
Tout à fait, mais je veux dire que on a quand même un gros problème dans les mouvements, entre guillemets, anticoloniaux, c'est qu'ils n'insistent pas sur cet aspect de l'anticolonialisme en France, de ceux qui ont aidé les mouvements nationalistes. Moi, vous savez, je suis en contact beaucoup avec les vieux militants algériens, parce que mes objets d'études portent sur les anciens. Eux-mêmes comprennent pas, parce qu'ils disent on a beaucoup été aidés par des Français, on a beaucoup travaillé avec les syndicats, avec le mouvement ouvrier, etc. Donc, il faut faire attention aussi que dans les critiques, mais c'est normal, vous savez, dans tout mouvement, il y a des excès, il faut aussi faire attention au fait qu'il y a une histoire de l'anticolonialisme en France, comme il y a une histoire du féminisme en France. Il y a déjà des gens qui ont combattu. Il y a eu des défauts de transmission, bien sûr. Il y a eu des problèmes, un manque des partis politiques dans la transmission. Je suis pas fou. Mais c'est aussi aux médias, c'est aussi aux partis, etc., eh bien de dire, dans le fond, il y a quand même des systèmes de continuité, de batailles qui ont été menées quand même. Et il faut les réhabiliter. Je veux dire que les Français, dans le fond, connaissent assez mal Maurice Audin ou Pierre Vidal-Naquet. Ils ont découvert Gisèle Halimi. Il faut dire la vérité. Gisèle Halimi meurt. On dit « Ah, formidable », etc. Mais moi, qui ai bien connu Gisèle Halimi, je peux vous assurer que quand elle allait plaider pour la grâce des condamnés à mort algériens en 1957 auprès de François Mitterrand, il l'écoutait pas. Et ça, elle me l'a raconté. Je veux dire, c'est des choses très dures. Et par contre, quand elle l'avait raconté à Daniel Mayer, le président de la Ligue des droits de l'homme, il s'est mis à pleurer. Ce sont des histoires comme ça qu'il faut raconter. Parce que l'histoire de France, c'est aussi l'histoire de la résistance, de l'anticolonialisme. Et c'est pas seulement l'histoire des maréchaux.
Et vous pensez qu'on pourra réussir à sortir de cette problématique qui fait qu'on a l'impression que le fait franco-algérien hante la France contemporaine sur ces thématiques que sont l'islam, l'immigration, les banlieues, la citoyenneté, l'identité française, et qu'on est en train de vivre là en ce moment de manière extrêmement rance.
C'est une très mauvaise situation. Moi, y compris une voix comme la mienne, elle est très faiblement audible. C'est pas possible, vous savez, c'est la voix intermédiaire, c'est-à-dire comme celle que j'essaye de donner en disant, dans le fond... Il y a effectivement ces stéréotypes type coloniaux, mais il y a aussi une autre France qui existe. Et donc il faut se battre précisément pour faire regarder tous les côtés, il faut regarder tous ces côtés de l'histoire. Ce type de voie n'a pas lieu parce qu'il faut être dans un camp ou dans l'autre, quoi. Je veux dire, et en fait, il y a des assignations à résidence identitaire. Et c'est contre ces assignations à résidence identitaire que, dans le fond, il faut absolument mener la bataille. Elle est très difficile parce que l'extrême droite grignote quand même, au niveau des médias, au niveau de l'université, au niveau de la jeunesse. Et c'est une bataille culturelle, disons, qui est très compliquée, très difficile, mais je crois qu'il faut l'amener, elle est indispensable.
Merci Benjamin Stora pour cet entretien. On attend votre rapport avec impatience et les mesures concrètes qu'il appellera. À très bientôt sur Mediapart. Pour prolonger cet entretien, je vous conseille l'abondante littérature de Benjamin Stora. Je ne vais pas citer 40 ans de travaux sur l'Algérie, mais je vais simplement vous rappeler que 6 de ses ouvrages ont été réunis par les éditions Robert Laffont en une mémoire algérienne, et c'est dans la collection Bouquins.